c'est pas toujours facile de trouver ça, et tu l'as fait très bien. Voilà, heureux de pouvoir chanter, même si nos musiciens ne sont pas là. Comme tu l'as dit, ça nous montre à quel point ils ont un ministère important dans l'Église, et combien leur don est précieux pour notre communauté. Je suis très heureux de voir des visages de visiteurs qui me sont connus et heureux de pouvoir échanger ensuite après avec eux. Certains, je ne les ai pas revus depuis des années. Je serais très heureux d'avoir des nouvelles des uns et des autres. Le thème que j'ai choisi ce matin est un thème qui est archi connu. Je crois qu'il a été abordé avec vous à plusieurs reprises sous un angle sans doute différent de celui que je vais aborder ce matin, et surtout avec un texte qui n'est pas simple à déjà à comprendre, à saisir, mais encore plus à mettre en pratique. Le texte que je vous propose ce matin, et j'ai donné un titre à ma prédication, qui est « Pardon de Dieu et pardon des hommes ». En mettant justement face à face ces deux démarches qui présentent le pardon de Dieu et le pardon des hommes. Et le texte qui sous-tendra notre méditation ce matin, se trouve dans l'évangile de Matthieu, qui se trouve aussi dans d'autres textes, Matthieu chapitre 6, pardon, les versets 12 à 15. Chapitre 6 de l'évangile de Matthieu, les versets 12 à 15. Alors je trouve que c'est parfois la tentation, lorsque nous connaissons les textes, c'est de mettre en fait notre attention en veilleuse. Je connais, j'ai déjà lu. Voilà. Alors, vous avez sans doute expérimenté la même chose que moi, c'est que lorsque nous lisons et relisons un texte, nous sommes souvent surpris par des choses que nous n'avions pas vues précédemment et que tout à coup nous découvrons. Alors ça, c'est une petite plaidoirie pour rester éveillé et lire ce texte avec toute l'attention que le texte mérite. Ce texte est donc le Notre Père usé et parfois abusé dans une forme de récitation collective qui parfois nous fait perdre le sens du texte. Texte prière qui s'inscrit dans, vous le savez, le sermon sur la montagne. Ce texte, donc versets 12 à 15, qui s'affiche, si des prouesses techniques. Là encore, c'est précieux d'avoir des techniciens qui sont au service, justement, de l'Église. Ce texte nous dit ceci. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable. Car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Et puis ensuite, ce commentaire. Jusque-là, ça va, mais c'est le commentaire qui suit, qui saisit. En effet, si vous ne pardonnez pas aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Elle est belle, la prière de notre Père. Que ton règne vienne. Waouh. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça va. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation, surtout délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire en jamais. Et puis le verset 14 et 15, les versets 14 et 15 nous saisissent. J'aimerais aborder ce texte, ma méditation, avec sous quatre points. Le pardon au cœur de notre piété, le pardon au cœur de notre vie communautaire, le pardon de Dieu sous condition, le pardon de Dieu face au pardon humain. J'essaierai de ne pas être trop long. J'essaierai de pardon au centre de notre piété tout d'abord. Pardon au cœur de notre piété. Il convient juste de dire en introduction que le pardon occupe une place importante dans l'Écriture et particulièrement dans le Nouveau Testament. Et tout ça pour deux grandes raisons. Tout d'abord parce que la communauté chrétienne naît, vit, grandit sur le fondement qu'est l'acte du pardon, grâce au pardon que Dieu nous accorde au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Nous sommes passés de la mort à la vie, et aujourd'hui, nous ne pouvons tenir dans sa présence et jouir d'une communion unique et personnelle avec notre Père Céleste. Pourquoi ? Vous êtes en vacances. Parce qu'il nous a pardonné. Parce qu'il nous a pardonné. Mais ce besoin n'est pas seulement nécessaire à notre salut initial, nous dépendons de ce pardon de manière constante. C'est un besoin permanent dans notre relation avec Dieu. Le pardon nous accompagne tout au long de notre journée, tout au long de notre semaine. Sans son pardon, même foi accordée par notre Père, notre relation avec lui serait continuellement assombrie par nos fautes. Nous ne pourrions vivre dans sa lumière en pleine clarté. Ensuite, que serait notre vie communautaire sans le pardon mutuel auquel nous sommes appelés? Notre vie relationnelle serait une vie, serait une existence faite de plaies, incicatrisables, alimentée sans cesse par une amertume. Ce serait une existence en perpétuel conflit où l'unité voulue par notre Père serait vouée à l'échec. Notre existence serait une vie constamment tournée vers le passé. Le pardon est donc au cœur de notre salut. Il est au cœur de notre relation quotidienne avec notre Dieu. Il est au cœur de la communauté des disciples. Nous sommes une communauté de disciples fondée sur le pardon de Christ et fondée sur le pardon que nous nous devons les uns aux autres. Il n'est donc pas étonnant que dans l'enseignement sur la prière, Jésus accorde à la démarche du pardon une place tout à fait particulière. Relisons cette prière que Jésus nous invite à prononcer seul, loin des foules, loin du brouhaha. Alors, je ne vais pas le faire, nous l'avons déjà fait. Deuxième point, le pardon au cœur de notre vie communautaire. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Sans minimiser les autres requêtes qui se trouvent, qui composent la prière du Notre Père, celle du pardon bénéficie d'une attention particulière puisqu'elle est la seule qui est accompagnée d'un avertissement sous forme d'un commentaire. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Cet avertissement donne à cette requête un caractère solennel. Elle attire notre attention d'une manière tout à fait particulière. Tout à fait particulière. Premièrement, Une leçon que nous pouvons tirer de cet enseignement. Jésus nous invite à lier de manière étroite le pardon du Père au pardon que nous accordons à ceux qui nous ont offensés. Au point que l'un semble conditionner l'autre. De ce fait, Jésus nous invite à réfléchir, lorsque nous nous présentons devant lui, à la qualité de nos relations fraternelles. Si nous sommes appelés à nous isoler pour prier, nous venons devant notre Dieu avec tout ce qui compose notre histoire, et particulièrement notre histoire relationnelle. La première question que Jésus pose, pardon, pas que Dieu pose, au premier conflit relationnel, quelle est la question ? Pardon ? Alors ça, c'est dans l'Ancien Testament. Où est ton frère ? Il y a « où es-tu ?» c'est effectivement. Mais où est ton frère ? Qu'as-tu fait de ton frère ? Et cette question devrait résonner constamment, j'allais dire quotidiennement, lorsque nous entrons dans la présence de Dieu. Et cette prière est donc un retentissement, un appel à soigner notre relation avec notre prochain avant de nous présenter devant notre Père. Et cet avertissement n'est pas nouveau, cette exhortation n'est pas nouvelle. Elle est rappelée maintes fois dans les Écritures. Et parmi les citations, parmi les nombreuses citations, la plus marquante en rapport avec notre texte est celle qui se situe juste avant. Chapitre 5 de Matthieu, verset 23. « Si au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis tu reviendras présenter ton offrande. » Je me suis un peu posé la question une fois, je me suis dit, alors c'est l'offrande ou la collecte, c'est le premier dimanche du mois. Et je me dis, mais si toutes les églises respectaient ce texte, me dit que la courbe, vous savez, des collectes qu'on affiche quelquefois à l'entrée de l'église pour savoir où on en est, il y aurait une chute vertigineuse. La prière ne fait-elle pas partie de notre offrande régulière ? N'est-elle pas dans l'Ancien Testament, et particulièrement dans le psaume 140, verset 2, comparé à cet encens qui s'élève vers notre Père. La recommandation de Jésus est donc à ses disciples est donc de faire précéder la régularisation de nos différends avec notre prochain, ou notre frère et notre sœur, de notre offrande à Dieu. Laisse là ton offrande et va trouver ton frère. Combien de fois l'avons-nous fait ? Je dois le confesser moi-même, pas souvent. Pas souvent. Combien de fois suis-je rentré dans la salle de culte sans avoir réglé un différend ? Combien de fois ai-je prié, apporté mon offrande dans la prière, sans avoir réglé un différend. Notre quête du pardon de Dieu, dans la prière du Notre Père, met en avant le pardon que moi-même j'ai déjà accordé à ceux qui m'ont offensé. Intéressant, le verbe est au passé. Comme nous avons pardonné à ceux qui nous ont offensés. Je viens implorer le pardon de Dieu avec la pleine conscience que d'autres ont eu, comme moi, besoin de mon pardon et qu'ils l'ont obtenu. Il y a dans ce texte, et c'est assez significatif de l'état d'esprit de notre Seigneur, comme une volonté de notre Seigneur à nous contraindre, avec toute la douceur et la subtilité qui le caractérisent, dans ce moment si particulier et si intime, à nous mettre à la place de ceux qui, à un moment donné ou à un autre, se sont trouvés dans la même situation que la nôtre. Alors que nous nous trouvons en train d'implorer le pardon de Dieu, Jésus nous invite à nous mettre à la place de ceux qui nous adressent cette même requête. Pour pouvoir, comme nous, se relever, en étant libérés de la culpabilité, pour pouvoir retrouver, si c'est possible, avec nous, cette communion qui leur est, pour certains en tout cas, si essentielle. Ainsi, Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas dissocier notre relation avec notre Père Céleste de notre relation avec notre prochain. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton âme, est ton prochain comme toi-même. C'est le résumé de la loi. C'est ce qu'avaient très bien saisi les docteurs de la loi. Et Jean l'apôtre d'enfoncer le clou. Comment peux-tu affirmer aimer Dieu que tu ne vois pas et ne pas aimer ton frère que tu vois? Réfléchir, hein? La difficulté de notre texte est dans ce qui pourrait ressembler à une forme de chantage. Dieu conditionne-t-il son pardon à ma capacité à pardonner à ceux qui m'ont fait du tort? J'en arrive à mon troisième point, pardon de Dieu sous condition. Notons tout d'abord l'aspect positif de l'apprentissage de la requête. Elle ne part pas du principe que nous avons échoué à pardonner, mais bien au contraire. Elle part de cet a priori positif que nous avons accompli ce que le Seigneur attendait de nous. Nous avons pardonné. La pédagogie du Seigneur est positive. Il ne voit pas dans son disciple un incapable ou un réfractaire au pardon, mais un disciple victorieux qui, à l'image de son Père céleste, a pardonné. Il ne viendrait pas à l'idée de Jésus de penser que ses disciples puissent oser refuser aux autres ce qu'ils réclament pour eux-mêmes de la part du Seigneur, le pardon. Vous connaissez tous la parabole du débiteur, impitoyable. Celui qui implore le pardon de Dieu vient lui demander de le libérer d'une dette, et c'est le mot, hein, qui ne pourra jamais d'une part rembourser, d'autre part jamais évaluer. Et nous sommes dans cette situation-là. Nous ne pourrons jamais rembourser à Dieu la dette que nous lui devons. Nous sommes des surendettés. Et c'est parce que nous avons reconnu que nous sommes des surendettés et que nous ne rembourserons jamais la dette, que nous avons confié notre dossier de surendettement à Jésus-Christ, à Dieu, et qui, par le sang de Jésus-Christ, a effacé la dette. Là, sur le bois s'affiche en lettres de sang le prix du pardon dont il a été l'objet, ainsi que la source de cette grâce immense qui est l'amour du Père Céleste à son égard. Le Fils, qui prie son Père, vient à lui honteux et confus, dans l'humilité et conscient d'une dette immense, conscient de la dette astronomique dont il a été libéré, conscient qu'il n'en a pas fini avec le péché et qu'il est encore toujours dépendant du pardon divin. Il n'a donc pas pu faire autrement que pardonner à son tour, non pas par devoir, non pas par obligation. Le pardon ne peut jamais être imposé. Quand l'éducation de nos enfants nous disant « Va demander pardon !» Je préfère « Va t'excuser » que « Va demander pardon !» Le pardon est offert, comme un cadeau, sinon ce n'est plus un pardon. Mais poussé par l'amour du Père à son égard, le Fils ne peut qu'offrir ce que son frère ou sa sœur est venu lui demander. Poussé par la générosité du pardon de son Père, il ne peut que pardonner à celui qui n'aura eu à son égard, en comparaison à la dette dont il a été libéré, qu'une somme modique à remettre. Si nous ne le faisons pas, nous ressemblons à ce débiteur impitoyable à qui on devait quelques centimes, et qui va mettre son débiteur en prison, alors que lui-même est redevable d'une dette immense. Le scénario de la parabole du débiteur impitoyable est totalement improbable. Le scénario frôle la science-fiction, quoique, avouons-le parfois, la science-fiction rejoint la réalité. Nous ne sommes jamais trouvés dans la peau du débiteur impitoyable. Nous nous retrouvons peut-être aujourd'hui même dans son attitude. Combien de fois avons-nous retenu le pardon qu'on est venu nous demander ? Dieu conditionnerait-il son pardon à celui que j'accorderai ou pas à mes frères ou à mes sœurs ? Réfléchissons un instant à ce que révélerait le cas improbable de celui qui, dégagé d'une immense dette, refuserait obstinément de pardonner à celui qui vient demander pardon. Il me semble, d'une part, qu'on serait en droit de se demander s'il a bien saisi la grâce divine. Dans les deux sens du terme, à la fois compris et à la fois reçu. Celui-ci serait si étranger à la notion de grâce que cette question légitime pourrait se poser. A-t-il lui-même conscience du besoin vital du pardon divin ? L'a-t-il vraiment demandé en toute sincérité ? Sa demande ne serait-elle pas vide de sens ? Elle est certes empreinte d'un vocabulaire religieux, mais n'exprimerait aucune réalité de repentance et de dépendance à l'égard du Père céleste. Ta prière, pardonne-nous nos offenses, ressemblerait à l'attitude des païens que Jésus dénonce plus tôt dans le sermon sur la montagne, lorsqu'il parle de moulin à prière qui n'engage à rien. Le pardon de Dieu ne peut être accordé que parce qu'à un moment donné ou à un autre, le frère ou la sœur a compris que nous étions devant Dieu tous des offenseurs. Pardonnez. Mon quatrième point, pardon de Dieu face au pardon humain. C'est mon dernier point, rassurez-vous. Cette prière aurait été plus facile à prononcer si Jésus nous avait enseigné à dire « Pardonne-nous nos offenses, aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés comme toi tu nous as pardonnés. » Elle serait apparemment brutale et ferait dépendre notre démarche de l'action de Dieu dans notre vie. Cette façon de prier élèverait le pardon de l'homme à la hauteur du pardon divin. Ce qui est impossible, inatteignable, et Jésus le sait parfaitement. Mais en mettant en miroir le pardon de Dieu et les pardons de l'homme, le disciple est appelé immanquablement à réfléchir à la nature du pardon de Dieu, à sa ressemblance, mais aussi à ses distances liées à son humanité. Et c'est là que se distinguent les deux pardons. Il n'y a qu'un seul et véritable vrai pardon, c'est le pardon de Dieu. Pourquoi ? Parce que le pardon de Dieu est instantané. Le nôtre a besoin de temps. Que les cicatrices, que les souffrances des cicatrices s'amenuisent, s'atténuent. Le pardon de Dieu n'a pas besoin de temps. Il nous promet dès lors que nous confessons notre péché, nous sommes pardonnés. Nous avons cette certitude que nous sommes pardonnés. Il n'en est pas ainsi pour nous. Le pardon de Dieu est instantané, immédiat. Il n'attend pas un centième de seconde pour nous offrir son pardon. Imaginez que comme nous, Dieu ait besoin de temps. Que sa douleur se calme, qu'il prenne le temps de réfléchir. Nous repartirions de notre tête à tête avec le Père Céleste, aussi lourd qu'à l'arrivée, en restant dans l'angoisse. Et c'est ce qui arrive parfois à ceux qui doutent du pardon. Le pardon humain a besoin de temps. Un temps parfois salutaire. Non pas pour s'obstiner dans un refus, mais il a besoin de réaliser ce qui lui est arrivé. Parfois d'évaluer son traumatisme. Parfois aussi que seul l'apaisement de la douleur peut aider au pardon. Que de pardon accordé, sans vraiment peser les dégâts de l'offense, sans mesurer en quelque sorte la dette, ont été accordés par obligation, sous l'injonction de l'Église, sous l'injonction de la communauté, sous l'injonction d'un enseignement biblique sans nuance et j'oserais dire sans humanité. Tu dois pardonner. C'est ton devoir de chrétien. Oui, mais ce chemin qui mène au pardon a besoin parfois de passer par la colère face au mal, au péché et à l'égard de ceux qui l'ont à un moment donné, incarné. L'offense a besoin de se remettre debout face à un traumatisme dévastateur qui a ravagé sa vie. Comment oserais-je demander à quelqu'un qui a été sous l'influence d'un abus sexuel, d'un inceste, demander à cette personne de pardonner maintenant, tout de suite? Parfois, le pardon que nous accordons est un déni de l'offense qui nous a été faite. Un déni. Nous voudrions que ce traumatisme n'ait pas eu lieu. Nous voudrions que l'offense n'ait jamais existé. Alors nous pardonnons. J'accompagnais comme ça une jeune. Trompée. Un point que vous ne pouvez pas imaginer. Quand celui qui l'a offensé est venu demander pardon, dans l'instant même, elle a pardonné. Ou, je devrais dire, elle a cru pardonner. Parce que quelques moments plus tard, tout le traumatisme est remonté. La colère, sentiment d'indignité. Il a fallu l'accompagner pour exprimer cette colère, pour exprimer cette blessure, et pour dire, mais non, tu as raison de ne pas pardonner maintenant. Tu as raison de ne pas pardonner maintenant. Il y a parfois des dénis dans nos églises. C'est pas grave. On transforme quelquefois les mots du traumatisme pour les rendre plus acceptables. Parce qu'on ne veut pas avoir en face de soi la réalité du traumatisme. Et quelquefois, notre responsabilité en tant que pasteur, enseignant, ancien, est d'accompagner la personne pour qu'elle prenne conscience de la gravité de ce qu'on lui a fait. Les personnes qui ne se rendent même pas compte de la gravité de ce qu'on leur a fait, qui sont constamment en train de minimiser. Pourquoi ? Parce qu'elles ont un regard sur elles-mêmes qui est négatif. Et il faut donc les aider à vraiment prendre conscience que ces personnes-là, on n'a pas le droit de les piétiner. On n'a pas le droit de les traiter de cette manière. Est-ce que ce qui a été fait a été parfois abject ? Sinon, le pardon perd de sa valeur. On a libéré d'une dette dont on n'a pas mesuré l'importance. Une peccadie, alors que ce qu'on nous devait est immense. Ce chemin est parfois douloureux et souvent un combat pour permettre d'évaluer justement ce chemin, pour qu'il prenne tout son sens, toute sa dimension, et enfin livrer le pardon avec toute sa force de la libération qu'il peut procurer à l'offenseur. Il est à noter que chaque fois qu'il est question de régler un conflit, les évangiles placent celui qui doit parler à son frère sur un chemin. J'aime bien cela, le chemin. Va le trouver. Va trouver ton frère. Comme si à chaque fois, il y a un espace. Un espace géographique ou un espace-temps qui permet de réfléchir, de parler. Le pardon humain, immédiat, sans recul, est donc parfois la conséquence d'un déni. Déni d'une réalité qui fait si mal que nous ne voudrions ne l'avoir jamais vécue. Il nous faut conclure en revenant plus étroitement sur le passage qui nous a occupé, la requête est séparée de ce commentaire, je serai très bref, par cette autre demande. Garde-nous de céder à la tentation, mais délivre-nous du mal. Étonnante cette insertion. Traitée indépendamment du thème du pardon de Dieu, elle tombe comme un cheveu sur la soupe. En revanche, si on la lie à la démarche du pardon, alors elle occupe la bonne place. La tentation dont il est question, quelle est-elle principalement ? Que vise-t-elle en particulier ? Probablement celle du refus obstiné de pardonner. La tentation de garder définitivement notre offenseur repentant des débiteurs permanents. Elle n'est pas sans lien avec l'avertissement que le Créateur adresse à Caïn. Le péché est tapis à ta porte. Son désir se porte vers toi, mais domine-le. S'entêter dans le refus du pardon ou de clarification de relation avec son frère ou sa sœur, c'est courir le risque que le péché domine sur nous et prenne le dessus, en nourrissant une haine dévastatrice et laisse le malin s'introduire dans nos relations fraternelles qui tuent l'unité de la communauté. Garde-moi, Seigneur, de céder à la tentation de la haine. Garde-moi, Seigneur, de céder à la tentation de l'amertume, de la rancœur. Aide-moi, Seigneur, à entrer sur ce chemin de pardon que tu as toi-même tracé pour moi. Amen. Je vous invite simplement un temps de silence et de méditation.